Yes, bonjour tout le monde, ça va bien? On s'est déjà rebonjour pour la plupart. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, très honoré de pouvoir vous partager la parole. Je pense que vous en êtes douté, je ne viens pas d'Abitibi, ok? Mon accent là. Je suis français, ça fait 3 ans maintenant que je suis au Québec. Je suis venu en 2019 avec mon épouse et ma petite fille pour être étudiant à temps plein à l'ITF et également pour répondre à l'appel de Dieu pour ma vie. Je viens de la France, mais je suis né, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Qui connaît l'île de la Réunion? Ok, nice. C'est aussi beau que Charlevoix. Je vais pas dire que c'est plus beau que Charlevoix parce que je ne vais pas mettre personne à dos ce matin, mais c'est vraiment une super île. Et à 14 ans, j'ai rencontré ma femme. Maintenant, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. On a notre petite fille qui est une réponse à nos prières, Lily Rose, parce qu'elle dort la nuit. Et ça, c'est vraiment un privilège. Ce matin, j'aimerais avant de commencer aussi remercier Julien et Lise de nous avoir accueillis ici. Est-ce qu'on peut les applaudir et les honorer? Ils font un merveilleux travail ici à Charlevoix, ils sont dévoués. Donc du coup, hier, on a appris un peu plus à se connaître et je peux vous dire qu'ils ont à cœur cette église. Ils vous ont tous à cœur et vous êtes vraiment choyés de les avoir parmi vous ce matin et pas que ce matin, pendant plusieurs années. Amen. Donc, ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup lire les journaux. Okay? Depuis tout petit, je lis tout le temps les journaux, je lis souvent les articles, tout le temps, je m'intéresse à ce qui se passe non seulement autour de moi, mais aussi dans le monde, ok? Et c'est une passion que j'ai développée depuis tout petit. J'aime beaucoup les articles de sport. Je crois que Julien en a parlé il y a quelques semaines que j'aimais le sport. J'aime tout ce qui touche à l'éthique, aux enjeux, plein de choses. J'aime me renseigner. Mais je dois vous avouer que ça fait à peu près 2 années là que je commence à être un peu découragé quand je lis la presse. Je sais pas pour vous, hein, mais vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois que vous lisez un titre dans les journaux, ça parle de découragement, de temps difficile, de saisons difficiles, de périodes compliquées. Les personnes se sentent fatiguées, ils sont dépassés par les événements. On lit souvent dans les titres, et la slide va s'afficher ce matin, on ne voit pas trop, mais j'ai remarqué en faisant ma recherche que plein de titres, on voit le mot découragé, on voit le mot fatigué, on voit le mot perte d'espoir, on voit les mots aussi comme dépassé par les situations, dépassé par l'événement, les événements, anxiété, fatigue. Mais la réalité, ce n'est pas que dans les journaux. Genre, toutes les discussions que j'ai actuellement avec la plupart des personnes, je ressens comme un sentiment de fatigue. Et c'est normal, on vient de sortir de 2 années de pandémie. Actuellement, il y a des conflits dans le monde. Ça a un impact sur nous. Et quand on discute avec les autres personnes, on dit, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué là. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Il y a des parents, des jeunes familles qui ont dû jongler pendant la pandémie avec télétravail, enfants à la maison, garderie fermée. Croyez-moi, quand une garderie se ferme, c'est compliqué, mais vous savez, c'est ce genre de saison où on se dit, mais pourquoi je me retrouve dans cette situation-là? Pourquoi, Seigneur, ce matin, je suis dans ce mood-là, cette situation-là, cette saison si particulière? Tu sais, on a nos projets, on a l'idée du rêve que Dieu a fait pour notre vie, l'idée de ce qu'on aimerait faire, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est normal que parfois on se sente découragé, tu sais. J'ai discuté avec plein de chefs d'entreprise qui me disaient que c'est compliqué, Anthony, en ce moment, les retards qu'on a pour les livraisons, on manque de main-d'œuvre, okay? Le prix du gaz qui augmente. Okay. Je ne vais pas en parler du prix du gaz parce que ma femme, elle n'en peut plus que je parle tout le temps du prix du gaz. Non, je ne vais pas en parler. Mais ce qu'on retient de tout ça, là, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri d'une situation difficile. Nous ne sommes pas à l'abri qu'un jour, quelque chose arrive dans notre vie. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un imprévu. Okay. Nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. On traverse tous des saisons compliquées. Ce matin, on a l'air tous d'aller bien. Vous entendez chanter. Je ne savais pas qu'à Nouvellevoix, il y avait des aussi à Charlevoix, il y avait des aussi belles voix que ça. Mais franchement, vous êtes bénis dans cette église. Vraiment, mais tout le monde a l'impression d'aller bien. Mais peut-être que certains d'entre vous passent actuellement par des saisons difficiles, par des saisons compliquées ou sortent d'une saison difficile et d'une saison compliquée. Mais ce matin, j'ai une illustration pour vous dire cela. C'est genre, moi personnellement, lorsque je suis venu à Longueuil, au Québec, je suis arrivé en 2019 et ma femme et moi, on répondait à l'appel. On dit, yes, Seigneur, il nous a appelés. On a vendu tout ce qu'on avait. On a pris notre argent. On a dit, on va s'installer au Canada. Mais l'idée qu'on se fait du Canada quand on est en France, c'est Charlevoix, ok? C'est magnifique, des lacs. C'est le lac Louise. Tu sais, moi, je pensais que quand j'allais faire mes footings le matin, comme ça, j'allais voir des caribous qui couraient, comme ça, des ours qui me regardaient. Le matin, quand je prenais mon petit déjeuner, j'allais directement à l'érable et j'avais mon sirop d'érable qui coulait du petit robinet. Mais là, où est-ce que j'arrive? À Longueuil. Voilà. Ok, on ne va pas se faire d'ennemis ce matin, on ne va pas dire que c'est... Mais ce n'est pas l'idée qu'on se fait du Canada, là. Longueuil, c'est... Voilà, quoi, c'est beau Longueuil, mais il faut s'en éloigner un peu. Là, c'est magnifique. mais c'est, pour être un peu plus sérieux, souvent, on passe par des saisons, on dit que si j'avais le choix, Seigneur, je n'ai pas été découragé par Longueuil, ok? C'était juste pour vous dire un peu comment imaginer cela, mais on passe par des saisons, on dit, mais si j'avais vraiment le choix, Seigneur, je pense que je l'aurais évité cette saison-là. Je pense que je ne l'aurais pas mis à mon agenda. Je pense que personne ne prévoit la perte d'un travail. Personne ne prévoit une situation délicate avec un membre de sa famille. Personne ne prévoit que mon mariage va mal en ce moment et j'ai l'impression qu'on pense qu'au divorce. Personne ne prévoit ça. Personne ne prévoit le fait que j'ai mon enfant qui fait un mauvais choix. Personne ne prévoit cela. Et ce matin, je m'adresse certainement à des personnes qui vivent peut-être une situation compliquée, qui vivent peut-être un moment de sa vie où tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi je passe par cette saison? Je n'aurais jamais choisi de vivre ça. C'est ces saisons qui nous font plus rêver. Tu as reçu une promesse dans le cœur, dans ta vie, de la part de Dieu, tu as reçu quelque chose. Et là, tu dis, mais c'est tellement si loin de moi. C'est tellement si loin de ce que je m'étais imaginé. C'est tellement inaccessible. Ces saisons qui vous font douter. Ces saisons qui vous donnent des mauvaises pensées. Des mauvais sentiments. Et je pense que lorsqu'on regarde à la vie du récit de Joseph, Dieu se sert de son exemple pour nous donner des clés pour surmonter ces saisons particulières. Des clés pour continuer de rêver, pour continuer de croire au rêve que Dieu a donné et que le rêve que Dieu a pour ta vie, pour continuer à croire et à réaliser que les promesses que Dieu t'a faites vont se réaliser ou sont en train de se réaliser. Le titre de mon message ce matin, c'est « Continue de rêver ». Continue de rêver. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Genèse 45, 1 à 8. Mais juste avant, j'aimerais juste un peu vous situer là où est-ce qu'on se trouve dans le texte. Joseph, pour la plupart d'entre vous, vous le savez, il se fait vendre par ses frères parce qu'ils sont jaloux. Il a fait un rêve où il voit ses frères littéralement se prosterner devant lui. Il voit son père le préfère de tous ses frères. Donc ses frères sont jaloux. Ils décident de le vendre pour esclave. Il se retrouve en Égypte. Arrivé en Égypte, il subit une grosse injustice où il est accusé injustement d'avoir violé la femme de son maître. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller en prison. Il va être oublié pendant des années en prison. Ok, il va faire et il vit une saison de cauchemar littéralement. Et là où on parle, à ce moment-là où on se parle, c'est que juste après la fin de sa prison, il a interprété un rêve du pharaon et ce rêve lui a permis de devenir gouverneur de l'Égypte. Il tient l'une des places les plus importantes du royaume d'Égypte. Mais son rôle actuellement, quand on lit ce texte-là, c'est qu'il est en charge de gérer une crise. Une crise, il y a la famine dans tout le pays et le pharaon lui dit « tu dois gérer toute cette crise, faire en sorte que personne ne manque de rien, qu'on puisse tracer et passer au travers de cette crise ». Et c'est dans ce contexte que ces fameux frères qu'il avait vendus il y a quelques années de cela, 13 ans, la Bible dit que c'est 13 ans environ, les commentateurs disent cela, que ça a pris 13 ans environ, ces fameux frères vont venir vers l'Égypte pour demander de l'aide aux Égyptiens. Premièrement, ils ne reconnaissent pas leurs frères et Joseph il dit, je ne vais pas me révéler à vous. Okay, il dit, il va mettre en place un stratagème pour que ses frères avouent le fait qu'ils ont vendu l'un de leurs frères. Et ensuite, il va faire un jeu, je vous incite à aller le lire et voir cette histoire. Mais là, on est exactement au moment où Joseph va révéler à ses frères son identité. Et on va lire ensemble. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer dans ses émotions, son émotion devant tout ce qui était présent, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore vivant ?» Imaginez-vous, il va faire « il est encore là, lui ?» Et alors, Joseph dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il. Votre frère... » excusez-moi, j'ai sauté un peu, mais il dit, mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Dans les autres versions, il dit qu'ils étaient troublés. Tu sais, mais Joseph, mais sérieux, t'es encore là? Alors Joseph, il dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ouais, c'est moi là. vous parlez à Joseph, votre frère, là, que vous avez vendu. Joseph, il aurait pu être rempli de haine, rempli de vengeance, vous imaginez-vous. À cause de ses frères, il a vécu toutes ces années. Mais regardez ce qu'il dit, c'est tellement puissant. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici, il n'y aura... Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour les pharaons, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. C'est vrai, il pourrait dire, mais non, Joseph. Et c'est nous qui t'avons envoyé là. Il dit, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est Dieu. Ce n'est pas vous qui avez permis que je passe par toutes ces épreuves. C'est Dieu. Il est en train de dire ça à ses frères. Et cette histoire nous montre que Dieu utilise toutes les saisons de notre vie. Dieu utilise toutes les saisons de ta vie. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, qu'elles soient belles, qu'elles soient pas belles, qu'elles soient remplies d'opportunités ou pas remplies d'opportunités. Dieu est capable d'utiliser et il veut utiliser toutes les saisons de ta vie pour t'emmener dans les projets qu'il a pour toi. Et pour t'emmener et pour que tu puisses vivre aussi sa gloire. Joseph, il a passé 13 années, ok? Il aurait pu être découragé, mais Dieu a utilisé cette saison pour sa gloire. Il dit à ses frères, Dieu m'a utilisé. Vous avez voulu me faire s'ouvrir, vous avez voulu que je passe par toutes ces épreuves, mais ce n'est pas grave, Dieu s'en est servi. Je ne sais pas quelle saison tu passes aujourd'hui, mais le Dieu de Joseph, c'est aussi notre Dieu ce matin. Et je ne sais pas par quelle saison tu traverses, mais Dieu peut utiliser, ce message est un espoir pour nous tous, que Dieu peut utiliser cette saison pour nous ramener dans ses projets, mais également pour qu'on puisse vivre et expérimenter sa gloire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Et ce texte me fait penser à une situation que j'ai vécue avec ma femme en 2019, quand on est arrivé au Québec, un peu plus tard. Okay, on est arrivé au Québec, on a déménagé au bout d'un mois parce que notre appartement ne nous plaisait pas trop. Sauf qu'on avait fait tous nos papiers à l'adresse de notre première adresse. Okay, tout. Et on ne savait pas que ça existait la SAAQ au Québec et que quand tu reçois un ticket, ben, forcément, ils envoient là où tu habitais avant. Mais ce n'est pas ça l'histoire. C'est que ma femme, une fois, elle rentre du travail, elle m'appelle, elle me dit « Anthony, il y a une voiture de police qui me suit depuis tout à l'heure. » Elle était sur le pont Jacques-Cartier, elle travaillait à Montréal. Je dis « Ok, ben, c'est pas grave. » Elle me dit « Non, mais j'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression qu'il va m'arrêter. » Je dis « Mais t'as roulé vite et tout. » Elle me dit « Non, mais je sais pas. » Et là, les petites fameuses « tit, tit, ok, policiers qui sortent au Québec, ils sont tout le temps tous musclés et tout ça. Ils sortent comme ça. Ma femme, elle avait peur peut-être dans la voiture. Elle me dit « il arrive, Anthony. » Je fais « Ok, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Et elle me dit, je dis « Calme-toi, il va juste faire un contrôle. » Et là, elle raccroche. Et elle m'appelle 15-20 minutes plus tard. Elle me dit « Anthony, il y a une dépanneuse derrière ma voiture. Je viens de prendre un ticket qui coûte 490 $. Le policier vient immobiliser notre voiture. » Et je suis toute seule sur Pont Jacques-Cartier, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, au Québec, il faut payer ses plaques à chaque année. Sauf que nous, on n'a pas reçu le courrier chez nous, on n'avait pas fait notre changement d'adresse, ok? C'était notre faute, ok? Et là, je fais, waouh, comment je vais faire? Demain, je dois aller à l'université, je dois emmener ma fille à la garderie, ma femme doit aller travailler, elle travaille à Montréal, j'ai plus de voiture là. Et peut-être pendant 30 jours. Donc je dis, bon, ben écoute, j'étais stressé. Et là, elle me raccroche, elle me dit, ah, le dépanneur, la personne qui conduit la dépanneuse veut me ramener à la maison. Il me dit de pas stresser. Il va me ramener à la maison. Je suis OK. Là, j'attends. J'étais stressé. En plus, je devais aller chercher un ami à l'aéroport sans voiture. Donc, il fallait que je trouve une autre solution. Et là, Joanna, elle arrive. Elle sort de la dépanneuse. Là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle sort de la dépanneuse resplendissante comme d'habitude. C'est ma femme. Mais elle sort de la dépanneuse et elle fait coucou au dépanneur comme ça. Genre, et toute heureuse avec le sourire. Elle arrive comme ça, elle vole. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe, Joanna? Mais voyons donc, on a plus de voiture, là. Et en plus, l'image était forte parce que je vois ma femme sortir toute resplendissante, toute contente. Pourtant, ma voiture partir comme ça, à la fourrière. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, oh, faut que je te raconte, Anthony. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu sais que j'étais dans la voiture, j'étais en train de parler à ce jeune homme-là, et il essayait de me remonter le moral. Il me disait, vous inquiétez pas, tout ça, ça arrive, vous avez trouvé une solution. Parfois, ça peut marcher, Dieu amène, ça a marché, on a trouvé une solution. Mais c'est pas sur ça que je veux insister, c'est que là, ce jeune homme, il dit à ma femme, oui, parlez-moi un peu de vous. Ma femme, elle parle, elle dit bonjour, ben, je m'appelle Joanna, peut-être, je ne sais pas si elle a donné son prénom, mais elle dit, j'ai une petite fille de 4 ans, et dès qu'elle, de 3 ans, de 2 ans à l'époque, il faut que je fasse le calcul. Et là, elle dit, ah, vous avez une petite fille? Là, il dit, moi aussi, j'avais une petite fille, mais enfin, je devais avoir une petite fille, mais on l'a perdue avant sa naissance. Et on savait le sexe, donc c'était une naissance, c'était vraiment une grossesse avancée. Et il dit, on a perdu notre petite fille. Il me dit, et ça s'arrête pas là. On n'a pas pu surmonter, ma femme et moi, cette épreuve. Et en fait, ma femme m'a quitté. Aujourd'hui, je me retrouve seul. J'ai plus de fille, j'ai plus de femme, et je me retrouve seul. Et là, ma femme, elle fait, vous savez, monsieur, je suis chrétienne. Je suis chrétienne et elle commence à prêcher à cet homme. Elle dit, vous savez qu'il y a un espoir qui existe toujours. Dieu, il vous aime et je pense que Dieu peut vous aider. Et je pense aussi et je crois que Dieu ne... C'est sûr que vous n'avez plus de filles, vous n'avez plus de femmes. C'est incompréhensible. Je ne sais même pas pourquoi vous vivez. Mais Dieu, lui, jamais vous abandonnera. Il sera toujours là pour vous. Toujours là pour vous. Alors qu'on vivait une situation que c'était compliqué, difficile. Alors qu'on vivait une situation pour dire, mais comment je vais faire là? J'ai plus de voiture. Comment je vais faire? Dieu a permis que ma femme, ce jour-là, rencontre un homme qui était au bord du désespoir, qui avait des pensées suicidaires. Et ma femme lui dit, hé, il y a un espoir qui existe encore dans ce monde. Et ce nom, c'est Jésus. Dieu utilise toutes les saisons. Toutes les saisons, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, Dieu utilise toutes les saisons pour sa gloire. Et c'est la même chose qui s'est passée pour Joseph et c'est ce qu'il dit à ses frères. Ce texte nous révèle cela. Et ce matin, je ne sais pas par où tu traverses, je ne sais pas quelle est ta saison, mais l'histoire de Joseph, l'histoire de ma femme, c'est un espoir et c'est une bénédiction pour toi pour te dire, hé, Dieu va utiliser cette saison. Il va t'aider. Lâche pas. Ne baisse pas les bras. Tu n'as plus d'espoir. Tu veux arrêter de rêver parce que tu as l'impression que Dieu t'a complètement quitté. Non. Lâche pas. Dieu va utiliser cette saison. Et la première vérité qui va te permettre de ne pas lâcher, de passer au travers de la saison pour laquelle tu traverses, c'est que Dieu est là. Dieu est avec moi. Et ça, j'aimerais qu'on le dise. Dites-le ce matin. Dieu est avec moi. Yes. Lorsqu'on regarde à la vie de Joseph, on voit que jamais, jamais Dieu l'a abandonné. On lit plusieurs fois, Dieu était avec moi, Dieu fut avec Joseph, Dieu fut avec Joseph, Dieu fut avec Joseph. Quelles que soient les circonstances, la présence de Dieu dans ta vie va jamais varier. Quelles que soient les circonstances, la présence de Dieu dans ta vie va jamais s'éloigner. Elle sera toujours avec toi, elle ne varie pas. Mais c'est facile hein, de dire que la présence de Dieu, elle est là, quand tout va bien. C'est quand tu fais une prière, bim, ça se réalise. C'est facile de dire que la présence de Dieu, elle est là. C'est facile que lorsque tu pries, il y a un miracle qui se réalise. Yes, alléluia, la présence de Dieu, elle est là. C'est facile aussi que, hop, un retour d'impôt imprévu. Amen. Dieu est présent dans ma vie. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand tout va mal. C'est beaucoup plus compliqué quand ça fait des années que tu vis la même situation et tu dis, mais Dieu, là, je me sens oublié, je me sens abandonné. Pourtant, j'obéis, Seigneur. Pourtant, je viens à l'église, je suis généreux. Je prends soin de ma famille, je passe du temps dans la prière, je prends soin de mon mari et de ma femme, je prends soin, enfin ça marche, c'est mon mari et les femmes de ça. Bref, vous avez compris. Je prends soin de mes enfants, j'essaie toujours de témoigner, j'essaie toujours d'être tout le temps là. J'ai l'impression que je ne fais rien pour mériter ce que je vis actuellement. Mais pourtant, tu vis cette situation. Tu dis, Seigneur, je suis fidèle, mais j'ai l'impression que toi, tu n'es plus là, Seigneur, tu m'as abandonné. Et on pourrait avoir les mêmes sentiments pour Joseph, ok? Il obéissait, il était intègre, il mettait tout le temps Dieu en premier, mais pourtant il vivait des situations compliquées. Pourtant il vivait des situations difficiles. Il aurait pu dire, comme nous tous parfois, « Hé Seigneur, pourquoi? Pourquoi je passe par là ? » Mais Joseph, il avait compris une chose, il avait compris que son obéissance et que son intégrité envers Dieu, son désir de toujours croire aux promesses, son désir de ne pas lâcher, de ne pas se décourager, tout cela dépendait qu'il avait confiance que Dieu ne l'avait pas oublié, que Dieu agissait pour lui, que Dieu était près de lui. Il ne se laissait pas aveugler. Il n'avait pas des résultats présents là. Il était en prison, il servait en prison. Il était intègre dans des moments de difficulté. Mais Dieu était avec lui. Il dit à ses frères, quand j'étais esclave dans la prison, Dieu était avec moi. Quand j'étais dans la maison de Potiphar, Dieu a été avec moi. À aucun endroit c'est écrit « Dieu a pris quelques congés de Joseph et est parti s'occuper un peu des autres choses autour. » À aucun moment c'est écrit que Dieu, à ce moment-là, il s'est retiré de la vie de Joseph. Non, 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 non. Dieu était là avec lui. Aujourd'hui, même si tu ne comprends pas la situation par laquelle tu traverses, Dieu est avec toi. Même si tu es dans une saison difficile à passer, Dieu est avec toi. Même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, non, Dieu ne t'a pas oublié. il est avec toi. Ce matin, réalise que Dieu est avec toi. C'est la Bible qui le dit. Même Jésus l'a dit, ok? Dans Matthieu 28, 20, on peut lire, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec moi. » Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un pasteur qui s'appelle R.C. Sproul. Il dit, « La vie chrétienne consiste à vivre toute sa vie dans la présence de Dieu. » Ce matin, mets-le dans ton cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où l'assurance, c'est une vie où l'assurance, où on a l'assurance que Dieu est présent à chaque instant. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de sa faveur. Rien ne peut me séparer de sa présence. C'est ce que Romain dit. Romain dit, n'importe quelle situation, Paul dans Romain, il dit, n'importe quelle situation dans laquelle tu traverses, impossible que tu sois séparé de l'amour de Dieu. Impossible. Tu peux tout prendre entre la vie et la mort. Il y a toute une liste. Prends ce que tu veux, rien ne va te séparer de l'amour de Dieu. Rien va te séparer de la présence de Dieu. Impossible. Dites-le ce matin, c'est impossible que je sois séparé de l'amour de Dieu. Impossible. Yes. Et si c'est vrai pour Joseph, si ça a été vrai pour Paul, c'est aussi vrai pour nous. Tu traverses une saison de doute, ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Une saison de découragement, ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Et une autre citation que j'aime beaucoup, c'est « Se tenir dans la présence de Dieu, voilà ce qu'est l'Évangile. » L'Évangile n'est pas principalement une question de pardon, il ne s'agit pas principalement de bons sentiments, il ne s'agit pas principalement de pouvoir, mais il s'agit avant tout de la présence de Dieu. La bonne nouvelle pour nous tous ce matin, et c'est que nous avons l'accès à chaque jour, à chaque matin, à la présence de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Il s'est donné pour nous, on est réconciliés, on a la vie éternelle, mais toute notre vie, là, ça commence maintenant, là, ça ne commence pas après notre mort ou quand on va être dans le ciel, non, on a la présence de Dieu accessible à nous. La première vérité ce matin pour ne pas se décourager, pour ne pas baisser les bras, pour continuer de rêver, c'est que Dieu est avec toi. La deuxième, c'est que Dieu utilise toutes les saisons difficiles par lesquelles tu passes et la tourne pour notre bien. Dieu change en bien. Dieu change toujours en bien. On lit ensemble, à la fin de tous les frères de Joseph vont retrouver, quand Joseph meurt, ils vont voir Joseph parce qu'il dit, pareil, Joseph, il a juste pris soin de nous parce qu'il s'est occupé de nous, il ne s'est pas vengé, juste parce que notre père était vivant. Mais maintenant, notre père est mort, Jacob est mort, peut-être que Joseph va nous tuer. Peut-être qu'il va se venger. Et là, Joseph, regardez ce qu'il dit à ses frères. Joseph leur dit, en Genèse 50, 19, 21, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconfortera. » Dieu a utilisé toutes les situations difficiles de Joseph pour tout changer en bien. Vous vouliez me faire du mal? Dieu l'a changé en bien. Et ce matin, j'aimerais te dire que oui, Dieu t'a pas oublié. Et tu passes par une saison difficile. Peut-être que cette saison, elle est compliquée. C'est compliqué là. Tu dis, mais non, Seigneur, je souffre actuellement. Je suis en train de souffrir. Dieu peut utiliser cette saison et la tourner en bien. Ça a été vrai pour ma femme et moi. C'est une toute petite histoire. C'était rien là de payer un ticket et de ne plus avoir sa voiture. Mais au moment, on était découragés. Mais Dieu a permis cette saison compliquée pour changer en bien et pour qu'un homme puisse se dire, yes. Je peux trouver mon espoir en Dieu. Et vraiment, Dieu peut changer toutes tes situations en bien. Il transforme le mal en bien. C'est ce que Joseph dit. Hein. Il dit humainement, là, si tu regardes en arrière, si vous regardez en arrière, mes frères, c'est sûr que jamais j'aurais fait le choix de passer par ces épreuves. Humainement, là, c'était impossible. Mais je sais que non seulement Dieu était avec moi, et aujourd'hui, regardez, il a transformé toute cette saison en bien. Pour moi, mais aussi pour vous. Aussi pour vous bénir. Pour moi, pour vous. Et pour sa gloire. Pour préserver un peuple. Dieu utilise chacune des saisons pour les transformer en bien. Et je vais inviter les musiciens pour ce dernier point qu'on va prendre ensemble. C'est que non seulement Dieu est présent avec toi, à chaque jour. Dieu peut utiliser toutes les saisons pour que tu puisses et les tourner en bien. Mais également, Dieu est au contrôle de tout, de toute chose. Il règne sur toute chose. Quand Joseph, il dit, « Suis-je à la place de Dieu ?» Joseph, il dit, c'est pas moi qui ai prévu tout ça. C'est pas, ça n'appartient pas à moi, la vengeance. C'est pas à moi de décider de votre sort. Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui a décidé toutes ces choses-là. Moi, je peux juste, simplement, vous aimer, faire en sorte que... Et je comprends que Dieu était au contrôle. C'est pas à moi de décider. Et ce matin, tu sais, j'aimerais réellement qu'on puisse réaliser que Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu prévoit toutes choses. Joseph dit, regarde, toutes ces dernières années, Dieu était au contrôle. Oui, Dieu se sert de toute situation. Il est souverain, il règne sur tout. Il règne sur tout. Dieu contrôle toute situation. Il y a un verset qu'on lit souvent, on dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et on pense aux bonnes situations. On pense à plein de choses, on dit « C'est pour ton bien, Seigneur. » Mais non, ce verset il dit que tout, ça prend tout là. Ça prend les situations difficiles, ça prend les situations de découragement, ça prend les situations de crise, ça prend des situations où il y a un imprévu financier qui est arrivé, et tout cela pour notre bien. Et on pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu crois vraiment que ce que je vis actuellement là, c'est pour ton bien? Tu crois vraiment que la situation de crise par laquelle je traverse, c'est pour votre bien? C'est pour mon bien? Tout concourt à mon bien? Je comprends là, je comprends que tu dis ça ce matin. Je comprends que tu es en train de dire ça, Seigneur, mais vraiment, c'est compliqué ce que je vis actuellement et moi je dois croire que tout cela concourt à mon bien. Je suis en train de souffrir. Es-tu sensible à ma souffrance? Est-ce que tu comprends réellement par l'épreuve par laquelle je passe? Tous les rêves que tu m'as donnés qui ne se réalisent pas là, ça n'arrive pas, Seigneur. Est-ce que tu es là avec moi? J'aimerais te dire deux choses ce matin. La première, c'est que Dieu comprend ta souffrance. La parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous. Dieu est sensible à notre souffrance. Mais la deuxième chose que j'aimerais que tu réalises ce matin, et vraiment, c'est que la saison particulière par laquelle tu traverses, la souffrance que tu éprouves, le découragement que tu éprouves, ça va devenir encore plus insupportable si tu n'es pas certain que Dieu est pour toi et que Dieu est avec toi. Il vaut mieux croire cette vérité que de croire que cette épreuve va durer pendant plusieurs années. Vaut mieux croire que hey, Seigneur, tu es avec moi là, tu as tout entre tes mains. Tu as tout entre tes mains, Seigneur.